Radio Classique, les spécialistes.
Il est 7h39 sur Radio Classique. Nous sommes mercredi et le mercredi, vous le savez, sur notre antenne, c'est cinéma dans les spécialistes, cinéma avec monsieur Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour Renaud.
Tiens, une petite musique qui va forcément rappeler des souvenirs à beaucoup d'auditeurs. La musique d'Indiana Jones. Pourquoi ? Eh bien parce que le cinquième opus des aventures du Dr. Jones sort aujourd'hui sur nos écrans. Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est son titre. Alors nous sommes, Samuel, en 1969. Le Dr. Jones s'apprête à prendre sa retraite. Mais évidemment, ça ne va pas se passer aussi tranquillement qu'il l'imagine.
Absolument, car comme nous le savons tous, Indiana Jones est un aventurier, mais également un archéologue.
Ouais.
Il détient la moitié de ce qui s'appelle de ce qu'on appelle le cadran de la destinée, donc est un cadran dessiné par Archimède et qui permettrait de remonter le temps et donc en remontant le temps de changer le cours de la destinée.
Ouais.
Or des nazis, désormais installés à New York, dans une ambiance un petit peu Marathon Man,
le
film avec Dustin Hoffman.
Hein,
on découvrait qu'effectivement, New York n'était pas une ville où il n'y avait que des Juifs, des Irlandais et des Italiens. Eh bien, donc, des nazis sont là avec l'autre moitié du cadran, veulent récupérer donc celle appartenant au Dr. Jones, et donc, en réunissant les deux moitiés, on retourne dans le temps, on modifie le destin du Troisième Reich, et donc, on facilite son avènement aujourd'hui, à la fin des années 1960.
Alors, Samuel, c'est le premier Indiana Jones qui n'est pas réalisé par Spielberg, et c'est un Indiana Jones qui tient grâce à la palette numérique, du moins dans une grande partie du film.
Alors, il se passe effectivement, il y a deux usages de la palette numérique. Il y a celui qui est, qui permet la mise en scène de films d'action, de scènes d'action. Plutôt invraisemblable, quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est, la force et la limite de cette technologie. Mais surtout, il y a cette séquence d'ouverture, ce long prologue dans le film, qui dure une bonne vingtaine de minutes, qui se déroule en 1945.
Ouais.
Donc au moment où les nazis sont en train d'acter leur défaite, mais cherchent à exfiltrer plusieurs wagons d'artefacts archéologiques, justement, pour les retirer au musée européen. Or, ce que l'on découvre dans les 25 premières minutes du film, c'est un Harrison Ford, donc Indiana Jones, totalement rajeuni.
Ouais.
Donc, véritablement, le Harrison Ford que nous avons rencontré à l'époque des aventuriers de l'Arche perdue. Et le résultat est assez bluffant.
Ouais.
C'est un véritablement son rajeunissement à la palette numérique nous laisse imaginer que c'est ici un cinéma du 21e siècle dont nous sommes clairement les témoins.
Oui, on va pouvoir ressusciter, je mets des guillemets bien sûr, un certain nombre de stars un peu vieillissantes ou même qui ont disparu totalement finalement avec la palette.
Absolument, ça si vous voulez, je suis sceptique là-dessus dans la mesure où de toute façon un acteur ce n'est pas seulement un visage, c'est également un vécu, c'est également un corps, faut arriver et je veux dire c'est une façon de bouger, mais techniquement, c'est désormais sur la table, c'est possible.
Mais dans cet opus, il y a le vrai Harrison Ford en chair et en os, et il est plutôt bon.
Ah, il est plutôt bon, c'est Harrison Ford.
Bah oui.
Donc,
oui.
Si vous voulez, c'est Harrison Ford. Nous parlons de l'acteur de La Guerre des Étoiles. Nous parlons de l'acteur de Witness. Nous parlons aussi de l'acteur d'Apocalypse Now. Donc, effectivement, je veux dire, si vous voulez, un visage de star, même vieilli, car l'âge n'est pas le problème. Mais ce visage de star, il reste extraordinaire.
Une dernière petite question sur Indiana Jones. Autant donc du flower power, puisqu'on est en 1969. C'est intéressant, c'est déroutant, c'est à voir quand même.
Oui. Parce que il y a effectivement mettre Indiana Jones à l'épreuve des années 60. Donc en faire un personnage qui est en voie de ringardisation, car dépassé par le féminisme de l'époque. Soudain, vous voyez l'enseignant qu'il était observé par ses étudiantes dans les aventures de l'Arche perdue, et celui qui endort ces mêmes étudiants lorsqu'il enseigne à nouveau. C'est également un personnage qui a eu un fils et lequel fils vient de mourir à la guerre du Vietnam.
Ouais, donc il y a quelque chose d'assez touchant finalement avec...
Et qui vient clore en fait cette saga.
Dans votre sélection, Samuel, également le nouveau film de Nanni Moretti, Vers un avenir radieux. C'est un film qui semble en quelque sorte répondre à ce cinquième opus d'Indiana Jones quelque part.
Absolument. Curieusement, en fait, c'est presque, je dirais, c'est presque deux films qu'on peut voir en double programme, parce que tout simplement, nous avons affaire ici avec Vers un damné radieux, au Moretti lunaire, au Moretti mélancolique, celui de Journal intime, celui de La chambre du fils, et donc. Aujourd'hui, le cinéaste italien a 69 ans et il s'inquiète pour l'avenir du cinéma.
Ouais.
Et dans ce cinéma, il sent qu'il n'a pas sa place.
Voilà. Alors, L'avenir radieux, c'est un titre à prendre évidemment au second degré. Hein.
Ah, complètement, ouais. Parce que si vous voulez, L'avenir radieux, si vous voulez, c'est dans le film Moretti... incarne un cinéaste qui met en scène l'arrivée d'un cirque hongrois à Rome en 1956, au moment où l'insurrection hongroise est écrasée dans le sang par les soviétiques. Et ce dont Moretti se rend compte, c'est que le PC italien, dont il est un sympathisant, a rapidement pris ses distances avec l'Union soviétique, mais que toute cette histoire, 56, la Hongrie, le PC italien, semble étranger aux jeunes avec lesquels il travaille.
Ouais.
Et c'est que simplement, il se rend compte que l'histoire qu'il a vécue n'est plus transmise par ceux qu'il côtoie.
Voilà, c'est un film là aussi. La nostalgie camarade, ouais. Avec toujours votre troisième choix, la ressortie en salle d'un des plus grands films noirs du cinéma français. Le Samouraï, Jean-Pierre Melville, Alain Delon, François Perrier et Nathalie Delon. Et il y avait une musique signée François de Roubaix. Écoutez. Là, on est dans du classique de chez classique, mais je ne sais pas si des gens ne l'ont déjà pas vu, mais il faut le revoir.
Alors, on est dans le classique, comme vous dites, Renaud, mais en même temps, nous sommes dans un moderne,
ouais.
Qui n'a jamais été dépassé. Il suffit d'ailleurs d'écouter simplement de...
Quand je disais classique, c'était pas péjoratif,
ah,
surtout
non,
sur cette antenne.
Non,
en fait.
C'est à la fois classique et moderne.
Ouais,
si vous voulez, c'est que simplement, cela n'a pas vieilli.
Ouais.
Nous écoutons les quelques notes de la partition de François de Roubaix. François de Roubaix était un des premiers musiciens à utiliser les instruments électroniques. Ce que cette partition apporte à ce film extraordinaire, c'est une dimension métaphysique. Dimension métaphysique qui colle à merveille au personnage de tueur à gages, incarné par Alain Delon.
Le samouraï.
Personnage hiératique, froid.
Jeff Costello.
Voilà, ouais. Détaché et en même temps, merveilleusement incarné dans sa chambre de bonne, avec sa cageuse oiseau qu'il couvre des yeux. C'est une borne fondamentale dans l'histoire du film criminel, donc en 1967. Et on se rend compte en fait que ce style Melville, que l'on peut désormais découvrir ou redécouvrir dans une copie restaurée, comme nous n'avons pas pu voir le film depuis sa sortie en 1967, mais que ce style Melville, ouais, est inimitable et n'a jamais été dépassé.
Merci Samuel.
Merci
le
beaucoup.
Monsieur Sénimé de Radio Classique, j'ai nommé Samuel Blumenfeld, à mercredi prochain bien sûr. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, au programme cyclisme et Tour de France, ça n'a rien à voir. Mais attention, ce matin, c'est à Marc à l'insu de son plein gré. Il est 7h47 sur Radio Classique.